Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale
infernale.
La matinale infernale, c'est votre émission du samedi matin sur Graphite qui dynamite votre réveil. Je vous rappelle le principe en deux mots. Je forme des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio à travers une série d'ateliers à la Bibliothèque Saint-Corneille, en classe lorsque je travaille avec des élèves, ou dans un autre lieu insolite dans lequel nous enregistrons aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison 4, à l'atelier de la Dame aux Fleurs. Eh bien, une fois que nous avons fait ces ateliers, nous enregistrons nos productions sous forme d'émission, notre matinale infernale. Je suis Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite, comme La Voix de la Plume, les rendez-vous culture et séries des bibliothèques de Compiègne, ou le Tilt Show. Ce matin, avec moi, mes chroniqueurs sont des participants des ateliers organisés les mercredis soirs, deux fois par mois, et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Elsa.
Bonjour.
Miss Kilt.
Hello.
Fatih la féministe.
Bonjour.
Et Martin, notre étoile filante.
Bonjour.
Nous aurons aussi Bad Cave qui va nous rejoindre, et Bertil pour nous parler des sciences. Voilà, donc une belle brochette de chroniqueurs pour ce matin. Je vous propose de commencer par voyager, parce que le temps de se réveiller et tout, il faut... Voilà, on va y aller tranquille pour cette dernière émission. Elsa, tu vas nous parler du Japon.
Oui.
Je t'en prie.
Prêt pour un nouveau départ pour le Japon ? Oui, me direz-vous. Et vous avez raison de vouloir retrouver ce pays merveilleux. Aujourd'hui, on parle des différentes écritures. Pour commencer, il faut savoir qu'au Japon, il y a trois écritures officielles différentes. Les kanji, une écriture qui vient de Chine et dont chaque symbole correspond à un mot. Il y a environ 50 000 caractères dans cet alphabet, mais les écoliers n'en apprennent que 2136. C'est comme si on devait apprendre 82 fois notre alphabet. Les hiragana, l'écriture principale aux symboles arrondis qui correspondent à des syllabes. L'alphabet en comporte 46. Déjà plus facile à apprendre. Et la katakana, l'écriture la moins utilisée, car elle sert à écrire les mots d'origine étrangère. Il y a 46 caractères différents dans l'alphabet des katakana. Notons que chaque écolier doit apprendre 2228 caractères au cours de leurs études. Soit environ 86 fois notre alphabet.
86 C'est... fois notre alphabet, Elsa ? Vraiment ?
Oui.
Mais comment font les enfants ?
C'est pourquoi l'écriture de leur calligraphie nous est si difficile. Il faut s'accrocher pour parvenir à retenir trois alphabets, dont les plus courts font quasiment deux fois les nôtres. De plus, chaque symbole est tracé dans un ordre différent. Selon si l'on appuie plus ou moins sur le pinceau, on va écrire un mot ou une syllabe différente. C'est ce qui fait toute la difficulté de la calligraphie japonaise. Écrire n'est pas moins un art qu'un moyen de communication. L'apprentissage de l'écriture s'étale sur 9 ans d'études. Si l'on voulait apprendre tous les kanji, une vie entière ne suffirait pas. L'écriture du pays du soleil levant est donc un art, un moyen de communication et une science. En effet, des scientifiques se sont penchés sur le nombre exact de kanji. La question n'a pas de réponse, que des approximations. C'est très nébuleux. Il existe des applications pour apprendre les écritures japonaises, mais le mieux est l'immersion, car on ne peut pas apprendre à tracer un caractère sur un téléphone ou une tablette. Il existe de temps à autre des ateliers à Compiègne et ses alentours pour ressentir exactement la bonne courbe du poignet, la bonne force sur le pinceau. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Mais j'ai hâte de vous retrouver pour vous en apprendre toujours plus sur le pays du soleil levant.
Merci beaucoup Elsa. Je suis bluffée, je ne savais pas qu'il y avait autant de caractères au Japon. Et c'est vrai qu'à l'école en France, quand on apprend le japonais, c'est à partir de la seconde souvent.
Si.
Oui, au lycée,
ouais,
hein, c'est ça.
Lycée.
Donc, ça laisse pas beaucoup de temps pour apprendre tout ça. Hein. Moi, j'avais été une fois au musée Champollion et on pouvait tracer, comme tu as dit, sur une tablette des caractères. Alors, c'était chinois en l'occurrence, mais c'est vrai que l'épaisseur du trait avec le doigt, c'est pas très facile à manier. Donc, des ateliers à Compiègne pour faire ça, c'est cool. Calligraphie japonaise. C'est l'association de jumelage qui fait ça ? Oui, c'est l'association de jumelage. Et puisqu'on parle de jumelage, partons maintenant en voyage ailleurs avec Miss Kilt.
Hello ! En voyage avec Miss Kilt, et cette année, c'est grâce au jumelage. Vous souvenez-vous du voyage que nous avons partagé lors de ma dernière chronique ? Un véritable périple à travers l'Europe, sur les traces des villes jumelées avec Compiègne. De Compiègne jusqu'à Guimarès au Portugal, en passant par la Belgique, le Luxembourg, la Pologne, l'Allemagne et l'Italie, un long parcours certes, mais sans la moindre fatigue, je vous l'avais promis. Car avec la magie de la radio, pas besoin de valise ni de billets, il suffit d'écouter et de se laisser emporter. Et ce matin, poursuivons notre voyage en mettant le cap sur l'Angleterre. Embarquement à bord d'un ferry direction Dover ou Douvres en français. Ensuite, nous prendrons la voiture pour nous rendre dans le comté du Suffolk, région située dans le sud-est de l'Angleterre où se trouve Bury St. Edmunds, la ville anglaise jumelée avec Compiègne. Le Suffolk, c'est cette région douce et champêtre entre mer et campagne où tous les cottages se fondent dans le paysage et où l'on prend encore le temps de vivre. Un décor apaisant à quelques kilomètres seulement de la côte. Niché dans cette belle région, Bury St. Edmunds nous accueille avec son charme so British. Mais ce qui intrigue en premier, c'est son nom, Bury St. Edmunds. L'histoire nous dit qu'il rend hommage à St. Edmund, roi d'Est-Anglie du IXe siècle, qui fut un jeune, pieux et courageux roi. En effet, lorsque les Vikings envahirent son royaume, il refusa de capituler et fut exécuté. La légende raconte qu'un loup fidèle aurait veillé sur lui après sa mort afin de guider son peuple jusqu'à son corps. On l'aurait alors enterré à l'endroit même où se dresse aujourd'hui l'abbaye de Bury St. Edmunds. Abbaye aujourd'hui en ruine, certes, mais qui est un lieu de pèlerinage depuis plus de 1000 ans et semble continuer de veiller sur la ville. À deux pas se trouve l'église Saint-Jacques, construite dans l'enceinte de l'abbaye et qui est devenue cathédrale en 1914 seulement. En 2009, la cathédrale a changé de dénomination pour devenir la cathédrale Saint-Jacques et Saint-Edmund. De nos jours, elle continue encore à être remaniée. En effet, la tour du millénaire a été achevée en 2005 et sa magnifique voûte peinte et dorée ajoutée seulement en 2010. En 2016, la cathédrale a même lancé un projet original et ambitieux, la reconstruire. Mais cette fois en Lego, à l'aide de 200 000 briques. Ah le oui. Principe... Eh oui, ça surprend.
Oui, oui.
Permettre aux visiteurs d'assister à la construction tout en les invitant à contribuer en offrant une ou plusieurs briques pour soutenir ce projet ludique et solidaire. Mais Bury ne se résume pas à ses édifices religieux et son prestigieux passé. Elle possède un centre-ville pittoresque, aux ruelles pavées, agrémentées de jardins publics soigneusement fleuris et de jolies boutiques. Et saviez-vous que c'est à Bury que se trouve la plus ancienne brasserie encore en activité en Angleterre ? Il s'agit de la brasserie Rinking, installée localement depuis 1799. En voilà une occasion parfaite pour s'arrêter dans un pub et goûter cette fameuse bière locale. Mais ce qui rend Bury St. Edmunds encore plus cher à notre cœur, c'est évidemment son lien tout particulier avec Compiègne. Jumelées depuis 1963, nos deux villes cultivent depuis plus de 60 ans une belle amitié, rythmée par des échanges scolaires, culturels, sportifs. Et d'ailleurs, si vous souhaitez faire partie du jumelage Compiègne-Bury St. Edmunds et participer aux activités proposées, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association où vous pourrez contacter sa présidente, Madame Floriane Lerouzic. Chères auditrices, et chers auditeurs, j'espère que ce petit tour en Angleterre vous a plu. Prochaine destination, je garde la surprise, mais une chose est sûre, nous verrons encore du pays. Alors d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.
Merci Miss Kilt, moi ça m'a donné un petit vent de fraîcheur de parler de l'Angleterre.
Oui, mais pas forcément plus. Mais pas forcément plus vieux, hein. Non, non, non.
J'ai pas dit ça.
Hein. Ah non, 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 je n'ai pas entendu ça non plus. Hein. C'est une blague.
Et ça m'a aussi fait penser à la série The Last Kingdom. Ah ouais. Parce qu'avec le nom du roi que tu as cité, Saint Edmund, du coup, qui était très saint, très pieux, on retrouve cette ambiance un petit peu...
Valeureux, brave, oui, on retrouve bien cette ambiance, en effet, pour les amateurs.
Ça me donne envie d'y aller, du coup, pour visiter, pour goûter cette bière à la brasserie, Fatih.
Ah oui, ça c'est sûr, moi je vais y aller.
Il ne fallait pas tant d'histoires pour aller dans une brasserie, voilà. Mais écoute...
Je suis ravie de vous avoir donné envie d'y aller, en tout cas.
Tu nous as choisi un chanteur...
Oui, un chanteur du Suffolk, justement, de la région. Pas de Bury St. Edmunds exactement, mais pas très loin. Donc, oui, on l'aime bien en plus.
Allez, on va écouter Ed Sheeran avec Shivers. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh, yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh, yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I, like my soul's on fire. I wanna stay up all day. Voici de retour sur Graphite, bien sûr, après un voyage géographique avec Elsa au Japon et Miss Kilt à Bury St. Edmunds, nous allons faire un voyage dans le temps grâce à Fatih la féministe.
Hello tout le monde, petite chronique donc du matin histoire de bien commencer la journée et de bien terminer les chroniques de la saison de notre amatinale
infernale.
Yeah! Avec la deuxième vague du féminisme, pendant que la première vague, celle des droits civiques, rappelez-vous, continue bien entendu à déferler sur tous les rivages de nos 5 continents. 6 aujourd'hui, avec le continent des déchets plastiques. Bref, ceci est un autre débat. Quoique, mais bon. Revenons à notre deuxième vague du militantisme féministe qui vise la libération de la femme. Elle est menée par des groupes et des modes d'action différents. Je ne rentrerai pas ici dans le détail. Et s'ancre en Europe occidentale et aux États-Unis à partir des années 70. La deuxième vague porte la lutte pour le droit à disposer de son corps. Genre, imagine, ton corps ne t'appartenait pas. Genre, c'était juste un emprunt, le temps d'enfanter et hop, au rebut, comme une vieille chaussette trouée. Vous avez compris ma métaphore, ouais, berk. Ainsi, en France, les féministes s'emparent du livre de Simone de Beauvoir, « Le deuxième sexe », publié en 1949, pour en faire la ref du féminisme moderne. Simone devient, sans le vouloir, une grande théoricienne du mouvement de la libération de la femme, le fameux MLF. Parce que notre écrivaine, elle s'indigne de la position d'infériorité des femmes, d'une part, et d'autre part, de la façon dont les femmes sont traitées, vulgaires objets érotiques, contraintes à des rôles de ménagère ou de mère. Notre Simone prône donc l'émancipation des femmes et l'égalité dans la différence. Différente, certes, mais égale des hommes avec un petit h. Elle se prononce aussi clairement en faveur de l'avortement, remettant en question la maternité elle-même, comme n'étant pas forcément un désir pour toutes les femmes. Qu'as-tu dit là, ma chère Simone? Tu les as trop fait flipper, nos conservateurs de sexe masculin ou féminin d'ailleurs. Ton ouvrage a fait scandale et a ouvert la voie à toute une génération de femmes que nous dirons féministes, c'est-à-dire dénonçant l'injustice et en quête de droits intrinsèquement humains. Il est vrai, n'en déplaise à ces messieurs-dames, que la seconde vague du féminisme prend une forme radicale, en rupture avec un courant féministe plus classique, celui donc de la première vague, qui avait lutté jusqu'alors pour que les femmes puissent voter, sortir de leur foyer, avoir droit à l'éducation et entrer sur le marché du travail. Alors je vous invite à une petite immersion dans les années 70, siège de lutte féministe acharnée. Visualisez les slogans. « Les femmes ne sont pas nées pour se soumettre !» Un enfant, si je veux, quand je veux. Nous aurons les enfants que nous voulons. Mon corps est à moi. My body, my rules. Imaginez, yes. Imaginez les pétitions, les événements, la pratique aussi d'avortements illégaux avec des médecins qui s'engagent. Car oui, l'enjeu est aussi sanitaire. Car autorisé ou pas, les femmes ont recours à l'avortement, parfois au péril de leur santé et de leur vie. Il fallait marquer les consciences, faire bouger l'opinion. En 71, le manifeste des 343 salopes recense une pleine page d'un quotidien, le Nouvel Observateur pour le citer. Les noms célèbres ou pas d'ailleurs de femmes assumant avoir eu recours à l'avortement et une liste de soignants avouant les avoir aidés. Il faut savoir qu'en France, l'avortement était un crime passible de la cour d'assises, rien que ça, jusqu'en 1923, date à laquelle il est quand même un délit. Un fait divers va venir bousculer tout ça. En 72, Marie-Claire, jeune de 16 ans, avorte illégalement après avoir été victime d'un viol. Elle est poursuivie en justice. Oui, poursuivie en justice pendant que son agresseur jouit de sa liberté. Ô patriarche tout-puissant. Elle est défendue alors par Gisèle Halimi et sera acquittée. Après le procès de Bobigny viendra le procès d'Aix-en-Provence en 78. La défense de notre avocate Gisèle de deux femmes lesbiennes violées et frappées permettra la redéfinition juridique du viol. Bah oui, parce qu'en première instance, les agresseurs n'étaient poursuivis que pour coups et blessures et attentats à la pudeur. Ô patriarcat, ça y est, j'ai bien lâché le mot, tout puissant quand tu nous tiens. Mais revenons au droit de disposer de notre corps. Le 17 janvier 75, la loi Simone Veil est adoptée, permettant la légalisation et l'encadrement de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les débats à l'Assemblée ont été d'une violence sans pareil, que Simone encaisse coup après coup avec une dignité et une détermination exemplaires. Merci ma Simone. Tiens, encore une, c'est vraiment le prénom de l'époque. Eh bien, le droit à disposer de son corps passe aussi par la contraception, que je vous relaterai dans une prochaine chronique, ou pas, et qui dit première, deuxième, dit aussi troisième, quatrième, voire même cinquième vague. Que de vagues pour avoir les mêmes droits en tant qu'homme, avec un grand H. Allez, bel été à vous, tous et toutes.
Merci Fatih, c'est vrai que là, il nous en faudrait quelques vagues pour supporter cette chaleur.
C'est vrai, un petit peu d'air, un appel d'air.
Bon, et puisque c'était mieux avant, ou pas, on va...
À voir.
On va... Bad Cave va nous plonger dans les années 80.
Donc il n'y a pas de jingle, hein, c'est ça?
Non, il n'y a pas de jingle aujourd'hui parce qu'on est hors les murs.
D'accord.
On en profite puisqu'on est à l'atelier de la Dame aux Fleurs.
D'accord.
Entouré
salut
de fleurs.
Les amis, moi c'est Bad Cave. Laissez-moi plomber l'ambiance avec ma chronique post-punk. Vous prendrez bien une petite cure de spleen. Mais si, c'est excellent pour la santé. Et bien voilà, dernière chronique de la saison, on remballe les vinyles, les boots et les posters d'Ian Curtis. C'est l'heure du bilan. Souvenez-vous, dans ma première chronique, je vous disais que le post-punk, ce genre qui avait pris l'introspection et le pessimisme pour emblème, avait été ringardisé dans les années 90. Relégué au second plan, notamment par le grunge et le hip-hop, deux genres en apparence plus ancrés dans le réel, le sociologique, le concret. Mais ce serait une erreur de croire que le post-punk s'est arrêté là. Il est même en pleine résurrection depuis 15 ans. Il est devenu un genre à part entière avec ses codes et son histoire. Ce n'est pas un retour absolument nostalgique parce que nombre de raisons du cafard qu'il exprimait dans les années 70-80 perdurent encore de nos jours. Le post-punk, ça résonne avec un monde qui s'effondre, avec la société post-tout, post-industriel, post-communiste, post-colonial, celui de la post-vérité et du post-humanisme. C'est probablement la bande-son parfaite pour un monde qui meurt et dont le nouveau nom n'existe pas encore. Dans les années 80, la jeunesse, ouvrière et britannique en particulier, mais mondiale en général, était confrontée au chômage de masse, au thatchérisme triomphant. Le « no future » n'était pas une posture, c'était un constat. Celui de la fin d'une culture prolétaire née de l'ère industrielle. Pour tous ceux, nombreux, qui n'arrivaient pas à s'adapter à ce monde en mutation, les rockers optimistes, positifs, paraissaient à côté de la plaque. Mais revenons aux années 90. Quel est le groupe de rock le plus iconique de cette décennie, d'après vous?
Les années 90, un groupe de rock, je sais pas.
Réfléchis.
Alors, j'aurais bien dit, j'étais pas née, mais c'est pas vraiment vrai.
Le chanteur est blond, il est mort jeune, il avait une mèche rose sur les...
Ah mais oui,
Kurt Cobain.
Non, Kurt Cobain.
Mais oui, bien sûr, Nirvana.
Nirvana.
Ah, Nirvana. Or, saviez-vous que l'un de ses grands succès, comme As You Are, est un plagiat en règle d'un hymne post-punk des années 80? Je parle du si bien nommé 80s de Killing Joke, sorti en 84. C'est le titre que je vous propose d'écouter ce matin. La ligne de guitare, du pur copier-coller. Kurt Cobain, enfin c'est plutôt du... oui c'est ça, du pur copier-coller. Le riff d'ouverture, si entêtant, de Come As You Are, c'est du Geordie Walker dans la partition. Kurt Cobain prétendait ne pas connaître le morceau de Killing Joke. L'aurait-il entendu sans y prêter attention? Peut-être. Le post-punk des années 80 hante nos consciences, y compris à notre insu. À l'époque, les avocats de Killing Joke ont flairé l'embrouille et entamé des poursuites. Sauf qu'en 94, Kurt Cobain meurt. Et là, Jesse Coleman, chanteur du groupe Killing Joke, dégaine la solidarité rock'n'roll, fin des hostilités. Parce qu'on peut être prophète du chaos, comme il l'était, et avoir bon cœur. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce fameux 80s? Des joyeuses choses, évidemment. I'm living in the 80s, I have to push, I have to struggle, I'm not for sale no more, let's kamikaze till we get there. Traduction, je vis dans les années 80, je dois pousser, lutter, je ne suis plus à vendre, je serai kamikaze jusqu'à la victoire. En somme, si tu veux te faire respecter, fonce tête baissée et explose-toi au passage. Sympa. Et le clip? Une merveille de sarcasme. Coleman y incarne un politicien grotesque, cravate bien serrée et gestuelle qui n'a rien envié à nos populistes en vogue aujourd'hui. Derrière lui, des drapeaux américains et soviétiques, des images de guerre, de concours de Miss Muscle, des caniches royaux surchargés de diamants et des figures politiques, Thatcher, Reagan, Khomeini, toute la fine fleur de l'époque. Regardez ce clip et osez me dire que l'histoire ne radote pas. Alors voilà les amis, je constate que je n'ai en fait rien d'un nostalgique, mais j'ai par contre l'intime conviction qu'on est tous coincés dans une boucle spatio-temporelle, un purgatoire politico-économique nommé les années 80. Tant que cette boucle durera, je vous mets mon billet que le rock qui chante la désintégration, la tentation du néant, les idées noires, la fin des temps, la distance mélancolique avec un réel qui tourne en rond, aura de très très beaux jours devant lui.
Eh bien, ça promet pour le week-end.
Bel été. Bon week-end.
Allez, on va écouter 80s, puisque tu nous as tant parlé.
Ah, c'est bon.
Ah.
Et nous sommes de retour sur Graphite dans notre matinale
infernale.
Mais oui, cette émission qui dynamite votre réveil n'est pas encore finie. Et non, c'est la dernière, on a mis le paquet. Du coup, on va continuer nos petites chroniques du matin avec Bertil. De quoi parle-nous
D'animaux.
De quoi tu nous parles ce matin, Bertil? D'animaux.
Connaissez-vous bien les animaux? Eh bien, les éthologues, les scientifiques, spécialistes du comportement animal, nous dévoilent quelques découvertes. Trois sujets vont nous intéresser dans cette chronique animale. La communication, la pensée et l'amour à l'égard des hommes. Comment certains animaux communiquent? Les animaux communiquent entre eux avec des sons, mais aussi de façon non verbale. Par exemple, les corbeaux qui croassent pour communiquer se servent de leur bec pour indiquer une direction, pointer quelque chose ou tenter d'éveiller l'attention du sexe opposé. Le hennissement des chevaux est diphonique et peut servir à communiquer des informations complexes. La première fréquence sert à exprimer une émotion positive ou négative et la seconde, l'intensité de cette émotion. Il existe aussi un hennissement de tendresse. Quand un cheval ou une jument réclame un peu de câlin, il ou elle peut émettre des sons aigus, tout doucement, bouche fermée. Vous pouvez essayer si vous voulez.
Carnage.
Ah, c'est pas gagné. Les chiens communiquent particulièrement bien et nous ne comprenons qu'une petite partie de leur langage. Ils ne savent pas seulement aboyer, ils sont capables d'émettre une série de sons très variés qui leur permettent de s'exprimer. Assez grossièrement, certes, et nos oreilles ne comprennent pas tout. Mais les chercheurs ont détecté des subtiles nuances qui constituent tout un langage. S'associe aussi à ces sons tout un langage non-verbal que nous comprenons beaucoup plus rapidement. Si les animaux communiquent, comment pensent-ils? Il y a de nombreuses définitions de la pensée. L'une est simple et concise. Penser, c'est résoudre des problèmes. Les corbeaux s'appellent par leur nom. Les rats réfléchissent à ce qu'ils font. Ils ont des regrets. Les coqs mentent à leurs poules, etc.
Ils ont des regrets?
Ils ont des regrets.
Mais non.
Wow. Si.
Ils auraient une morale.
Il se déroule bien à l'intérieur de ces têtes d'animaux un processus visant à résoudre un problème. Les animaux ont des processus mentaux propres à eux. Ils ont de nombreuses émotions qui leur sont propres, pas si éloignées de celles des humains d'ailleurs, comme par exemple le bonheur ou la gratitude. Ils n'agissent pas que par instinct, c'est-à-dire inconsciemment sans passer par la pensée. Les études récentes montrent que la conscience existe aussi chez certains animaux. Enfin, une autre question que nous pouvons nous poser. Les animaux peuvent-ils vraiment nous aimer? Déjà, il a été maintes fois constaté que toute personne qui a eu l'occasion de jouer le rôle de mère à de jeunes animaux, même sauvages, ont constaté qu'une véritable relation émouvante se construit. Des animaux adultes peuvent eux aussi s'attacher à nous sans que leur motivation ne soit uniquement le fait de les nourrir. C'est très clair pour les animaux domestiques adoptés déjà adultes. Ce n'est beaucoup moins vrai pour les animaux sauvages. L'amitié envers des humains est plus fréquente chez les animaux marins, notamment les dauphins. Ils accompagnent volontiers les nageurs, gentiment, pour leur plus grand plaisir, et leur familiarité n'a rien à voir avec la nourriture qu'ils rejettent systématiquement.
Il paraît qu'ils sont misogynes. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien.
Tout un programme. Ainsi, ce n'est pas perdre notre position privilégiée d'humain que d'accorder autant d'émotions aux animaux. Et les animaux ne sont pas les seules créatures sensibles. Les scientifiques le savent désormais. Les arbres aussi, entre autres végétaux, ressentent aussi.
Il faut parler à ces plantes, il paraît.
Eh oui, ils ressentent aussi. À bientôt et bel été.
Merci. Alors, moi, je ne suis pas très fan des animaux en général, mais les plantes, bon, elles crèvent toutes chez moi. Mais quand même, je leur
parle. Il faut leur parler, Aurore. Il faut les caresser.
J'ai caressé.
Oui, tu leur fais un petit câlin sur la feuille. Je te jure, j'en ai sauvé plein comme ça. Je te jure, j'en ai sauvé plein comme ça.
Oh, ok.
Bah, oui, quelques secondes comme ça.
Peut-être en plus de leur parler et de leur mettre de l'eau. Et puisqu'on est dans les sciences, eh bien allons au-delà de notre horizon habituel avec Martin, notre étoile filante. Où tu nous emmènes, Martin, aujourd'hui?
Sur Saturne.
Allez.
Coucou. Comme promis la dernière fois, aujourd'hui, ce sera Saturne, du coup.
Surprise.
Surprise, je viens de le dire, mais c'est Saturne. Alors, Saturne est la deuxième planète géante, anciennement gazeuse, et la sixième du système solaire, juste avant Jupiter. Elle est aussi la deuxième plus grosse planète du système solaire. Elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Allez, première question de la matinée. Combien de lunes confirmées a-t-elle ?
Confirmées, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a encore plus.
30.
Plus, qui dit mieux ?
Plus.
Purée. Hein.
47.
60.
Plus.
80.
Plus. Attends.
Où est la réponse ?
Presque.
85.
Moi.
Allez, donc, on donne la langue au chat.
84.
82, oui.
Bah voilà.
La tricheuse.
Et il y en a 53 qui ont été nommés.
D'accord.
Donc vous vous doutez bien que je ne vais pas toutes vous les citer.
Merci.
Ah oh, si, non, une chronique non, entière non. Sur, non. Les, sur les 50... Oui, mais 53 ont ouais. été nommés. Donc,
ah oui.
En même temps...
Quel nom
deux noms. C'est la suite.
Ah.
Il y a par exemple Titan, Rhea ou Dionée.
Ah oui, Titan, on
Titan, connaît. Oui.
Certaines qui sont connues. Enfin, Titan. Quelle est sa température ?
Moi, quelque chose.
Bravo, c'est très précis en plus.
Merci.
Bah, moi, déjà, j'allais partir dans les positifs, donc tu vois, ça m'aiguille quand même.
C'est froid.
Vu que c'est assez loin du soleil, c'est.
Ah oui, en toute logique, c'est vrai.
Plus.
Moins 200 ?
Non.
Moins 200.
Quand même un peu moins.
Ah. Moins 150 ?
Plus.
Mais plus dans quel sens ? Mince.
Bah, enfin,
je me mélange là.
Plus dans les moins.
Moins 180.
Moins 180.
Si vous voulez, je vous donne une fourchette.
Allez, donne-nous.
Entre moins 180 et moins 190.
Ok.
Donc, moins 185.
Plus.
Moins 187.
Moins plus. 188.
De toute façon, ça va.
Plus.
189.
Enfin, oui. Bon, entre 189 et... Enfin, entre moins 189, du coup, et moins 139 degrés Celsius.
D'accord, c'était une grosse fourchette, quand même.
Vous vous demandez sûrement quelle est la circonférence de Saturne.
Ah oui,
c'est non,
oui, là, t'as dit géante, donc déjà, ouais. Voilà, ça donne une idée.
Avec ou sans les anneaux ?
Sans, je pense.
Les anneaux, c'est triché.
Les anneaux, c'est triché.
Aucune idée, Martin, vas-y, aiguille-nous, éclaire-nous.
Non, mais c'était. Vous vous demandez sûrement quelle est la circonférence de Saturne.
Ben, on se le demande, mais on n'en a aucune
c'est
idée.
C'est pas grave.
Dis-nous tout.
Même.
Dis-nous tout.
La circonférence de Saturne est.
Suspense.
378 675 km. Pour comparer, la circonférence de la Terre est de 40 075 km.
Ah.
Bref, le diamètre de Saturne fait environ 9 fois et demi celui de la Terre.
Okay.
C'est un peu beaucoup.
Wow.
C'est pas mal.
Un tout petit peu beaucoup.
Géante.
Géante, c'est géante.
Bah, c'est dans les planètes géantes. J'en suis où ?
Ah, bah oui.
Je me perds à chaque fois que je quitte les feuilles des yeux. Elle est à 1,4 à peu près milliards de kilomètres du Soleil. La distance de la Terre à Saturne, quant à elle, varie de 1,2 à 1,7 milliard de kilomètres selon leur position sur leur orbite. Quelle est la durée d'un jour ?
Alors, vu qu'elle est presque 10 fois plus grosse que la Terre...
Une semaine ?
Ouais, voilà, c'est pas mal.
Je sais pas.
Un jour ?
Oui.
C'est l'équivalent
elle
de...
Elle peut tourner plus vite, nous dit Elsa.
Bah, elle tourne plus vite, justement.
Ah ben, en fait, faut que tu nous donnes la réponse, parce que nous, on aime bien... On est un peu passifs.
Oui. On aime bien.
Bah du coup.
On t'écoute. On aime bien avoir les réponses directes.
C'est vrai.
En fait, un jour dure 10 heures et 34 minutes.
Ah oui, elle tourne beaucoup plus vite.
10 heures. Ah oui.
Donc c'est plus vite effectivement.
Non, on vieillit plus vite là, non ?
Maintenant, la durée de la révolution, tant qu'on y est.
200 jours. Non, elle fait un plus grand
beaucoup
tour.
Beaucoup plus.
Bah oui, elle fait un plus grand tour. Non, je suis
mais alors,
perdue,
beaucoup, hein. Beaucoup plus.
Vas-y, dis-nous, je suis perdue, là.
Parce que c'est une année, en fait.
Oui, merci.
Oui.
Donc, c'est en réalité environ 29,5 années terrestres.
Ah oui, ok. Beaucoup,
donc, un
beaucoup
an, c'est 29,5 ans. Je
oui.
sais pas wow. si c'est clair.
Oui.
Si, c'est clair.
C'est très
c'est
clair.
Long. C'est long.
Ah bon c'est long.
On est bien sur Terre.
On est bien
elle fait un grand tour parce qu'elle est très loin en fait.
Ouais.
Du coup, combien de temps a-t-il fallu à la sonde envoyée pour aller vers Saturne ?
Depuis la Terre vers Saturne.
Combien d'années ? 50 ans ?
Oh, c'est beaucoup 50 ans.
Non, c'est
beaucoup
trop.
Moins.
Il y a 50 ans, on n'envoyait pas de sonde.
Ah oui, t'as raison. Non, mais si, il y a des plans secrets, je te le dis. Je rigole, hein. Je suis pas.
5 ans, ouais, c'est pas mal 5 ans.
Un tout petit peu plus.
Oui.
6, 7 ans ?
6.
Un tout petit peu plus.
7 ?
Oui. Il faut plus de 7 ans pour faire le voyage. Des traces d'eau sous forme de vapeur existent dans l'atmosphère de Saturne. En outre, ces anneaux contiennent principalement de la glace d'eau. Et tant qu'on parle des anneaux, elle n'est pas la seule à en posséder. Il y a aussi Jupiter, Uranus et Neptune. Mais leurs anneaux sont plus discrets et difficiles à observer.
Oui.
Cette année, les anneaux de Saturne vont disparaître.
Ouh.
Oh.
Enfin, pas vraiment. La perspective donne l'impression qu'ils ne sont plus là. Ce phénomène se produit tous les 15 ans.
Oh.
Donc la dernière fois, c'était en 2010.
Eh oui,
d'accord.
Si on réfléchit. Bon, c'est tout pour cette année, mais c'est aussi probablement la dernière chronique sur le thème du système solaire.
Mmh. À l'année prochaine. Merci à notre étoile filante d'avoir fini avec Saturne. C'est une belle planète, Saturne. Enfin, les anneaux, ça fait un peu rêver, non ? Dans l'univers collectif.
Bah, c'est toujours celle qu'on
l'imaginaire collectif, pardon.
Quand on observe, c'est celle qu'on reconnaît.
C'est celle qu'on voit. Non. Eh bien, c'est aussi la fin de notre émission.
Oh non.
Merci à tous mes chroniqueurs du jour.
Bah de rien.
Merci à toi, Aurore. Merci, Aurore.
C'était encore une chouette année, une chouette saison. Nous reviendrons, we'll be back, of course, l'année prochaine avec ceux qui veulent. Il y aura aussi un nouveau groupe de chroniqueurs qui sera formé pour ceux qui n'ont jamais fait et qui ont envie d'apprendre à partir du 1er octobre. Le rendez-vous sera à la bibliothèque de Compiègne le mercredi 1er octobre pour tous les nouveaux qui auraient envie de rejoindre l'aventure de la matinale infernale. On va terminer bien sûr en musique avec une musique de l'espace. Choisi par Martin.
C'est Men in Black.
Absolument. Chers auditeurs, passez un bel été. Chères auditrices, passez un bel été. Je ne voudrais pas que Fatih me remonte les oreilles.
Non, t'as vu mon regard, quoi. Non, vous ne le voyez pas, mon regard, mais elle l'a vu.
Merci à vous. Merci à mes chroniqueurs. Et à bientôt pour une prochaine matinale infernale.
Ouais. Infernale. Ouh. Here come the MIBs. Here come the men in black. They won't let you remember. Nah. The good guys dress in black, remember that. Just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk a shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. The darkest of night on the horizon, bright light into sight tight. Camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotizer, normalizer. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, or see the noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. With the fearless and my bees freezing up all the flag. What that stand for? Men in black. Let
me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. Tell you this in closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection, cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be, so go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in.
Sorry.